Le village historique acadien vous présente la chronique Dans ce temps-là avec Philippe Basque.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour Philippe, ça va bien?
Oui, bonjour Sandra.
Oui. Alors Philippe, vous allez nous parler de trois biographies que vous avez publiées dans le plus récent numéro de la Société historique Nicolas Denis.
Oui, je pense que ça fait comme un mois. J'avais parlé des différentes biographies qui avaient eu lieu quand ce que la revue avait sorti là, quelques mois passés.
Oui.
Puis je n'avais pas encore parlé de ce que moi j'avais fait, parce que moi je publie toujours quelques petites biographies dans la revue, là, tout en des articles. Puis là, j'en avais publié trois. Il y en avait une, ça faisait comme un bout de temps que j'avais écrit ça, puis je pense qu'il y a eu le COVID, là, puis ça avait été retardé. Puis c'est ça, c'est fait qu'on va voir une sage-femme, on va voir un couple de Haut-Chipagan, puis on va voir un monsieur qui est originaire de Paquetteville. Alors, si on commence avec le premier, là, comme quand on prend la revue, c'est le premier, ça va par ordre alphabétique. Elle, c'était une Brideau, mais elle va marier un Maigrat. Là. Dans le temps, c'était des Maigrat. On va marier Charles Maigrat, qui va devenir des Maigrat là, dans le coin de Lausée Settlement.
Okay.
Puis elle, c'est Célina Brideau. Puis, eux autres vont vivre à Lausée Settlement dans ce qu'on appelle le chemin de la baie. Là. Puis aujourd'hui, le chemin de la baie, il n'y a comme pas de monde qui vit là-dedans, mais il y a des chalets ou il y a des habitations comme là-bas au fond sur le bord de l'eau. Là. Mais comme au début, là, entre la rue principale, qui est comme la route, aujourd'hui ça a changé de nom, là, c'est la route, il y a un tel numéro, là, jusqu'à, je dirais, jusqu'à le pont de l'autoroute, là, le pont du bypass, là, il y avait des maisons dans ce chemin-là longtemps passé. Là. Longtemps passé, le monde vivait où il y avait un chemin, tandis qu'aujourd'hui, on vit plus proche de la route asphaltée, disons.
Ouais.
Fait que, mais longtemps passé, dans les années 1800, si tu peux bâtir une maison quelque part dans la forêt, tu pouvais. Là. Mais eux autres, en tout cas, ils vivaient dans ce chemin-là. Puis elle va devenir éventuellement une sage-femme. Puis dans nos histoires au village acadien, la maison Maigrat, ils font devenir des Maigrats, eux autres, la maison qu'on a au village acadien, c'était la maison à son fils. Ah. Quand on a apporté la maison dans le village, son fils, sa femme à lui va être sage-femme aussi, mais elle va être sage-femme beaucoup plus tard. Puis moi, je me demande si c'est pas... Tu sais, c'est comme si c'était sa belle-mère,
oui.
Elle, qui était sage-femme, dans le fond. Mais je me demande si elle n'a pas appris un petit peu de sa belle-mère, là. Parce qu'elle, elle va être sage-femme comme dans les années 20, 30, 40, tandis que Célina, elle est sage-femme au début du siècle.
Puis Célina a eu beaucoup d'enfants aussi.
Oui, elle, je pense qu'elle a accouché 12 fois.
Wow.
Puis, il y a eu quelques-uns qui sont décédés en bas âge, parce que, il me semble, là, quand on regarde la généalogie, les deux premiers enfants ont exactement le même nom. Fait que, bon, il n'y a pas de date de décès. Fait, probablement que le premier est né, puis il est décédé, puis on n'a pas enregistré son décès, ce qui était comme normal dans ces années-là. Puis, le deuxième est né, puis ils ont donné le même nom. Je pense que c'est Ambroise, Pierre Ambroise, quelque chose comme ça, qui s'appelle. Fait, moi, mon étude, ben, je pouvais juste me fier aux sources que j'avais, c'est-à-dire les actes de naissance que le prêtre remplissait. Le prêtre à Tracadie, c'était l'abbé Levasseur. Puis elle, étant donné qu'elle faisait le territoire de Saint-Isidore, c'était le père Gagnon. Puis après ça, le père Bernier là, qui va le remplacer. Fait que les prêtres, eux autres, quand ils remplissaient le formulaire de l'acte de naissance, ils envoyaient une copie à Fredericton parce qu'il fallait l'enregistrer à Fredericton d'une façon légale. Puis après ça, ben, ils faisaient le baptême. Là, mais le baptême, c'est le côté religieux. Mais il fallait vraiment officialiser d'une façon légale à la province. Fait que dans ces actes de naissance-là, des fois, on mentionne qu'est-ce que la sage-femme. On commence juste à mentionner ça en 1904-1905 à peu près. Puis après ça, dans les années 10, là, c'est pas mal tout le temps. Faut croire qu'ils se sont fait dire « on veut savoir qui accouche les femmes d'une façon légale puis tout le temps ». Fait que ça va se régulariser dans les années 10, mais dans les années début 1900, là, c'est plus ou moins rare. En tout cas, l'abbé Louis Gagnon, lui, il fait ça à la fin de sa vie. C'est rare qu'il faisait ça. Il faisait ça comme en 1908-1909. Puis après ça, il a pris sa retraite, je pense, en 1910. Fait elle, de 1904 à 1919, c'était ça mon époque. Là,
oui.
Elle va aider à 91 familles différentes de la région. Là. Puis dans ma petite étude, là, je voulais savoir qu'est-ce qu'était le territoire qu'une sage-femme pouvait faire. Parce qu'il faut penser qu'elle est à pied, elle ne peut pas se promener beaucoup, ou aller en cheval, ou des fois...
Ça accouche à quatre saisons, là. Ça accouche autant l'hiver que
l'automne. Ben oui, qu'en été.
C'est tout le temps, ça peut se faire appeler tout le temps. Ça y est arrivé à quelques fois d'accoucher le même jour deux femmes. Là. Puis ça est arrivé aussi quelques fois d'accoucher comme en peu de temps. C'est pas elle qui accouche, mais à aider les autres femmes à aller proches l'une de l'autre. Là. Fait que dans les 91 familles, il y en a 7 que c'est ses enfants qu'elle va aider. Fait elle va aider chez sa propre famille. Il y a 3 filles. Elle aide ses 3 filles. Fait c'est elle-même qui accouche ses propres filles. Là, ça fait quand même quelque chose, ça.
Pour ses petits-enfants, là.
Oui, ça doit être assez émotif.
Oui, elle met au monde ses propres petits-enfants. Puis c'est, avec ses, les femmes à ses fils aussi. J'ai trouvé, par le temps que tu mon étude, moi, là, vers la fin, elle va aider une de ses petites filles à accoucher.
Ah oui!
Qui s'appelait Célina aussi. Pourquoi ils ont donné le nom de sa, la grand-mère? Elle a accouché, Célina a accouché Célina. Puis elle, c'était la femme à Joe Ozias Savoie. Que lui aussi, là, me semble, ça vient de Paul-André, ça a eu une grosse, grosse famille, ces Savoie-là. Là. Ils se sont mariés avec les Maigras aussi. Là. C'est une grosse famille, ça, dans ce coin-là. Puis elle, puis les docteurs aussi, dans ce temps-là, ils pouvaient endoyer les enfants. Fait, elle, elle pouvait, si jamais elle voyait que l'enfant ne survivrait pas, elle pouvait comme faire un baptême pour protéger son âme là, d'être perdue dans les limbes. Fait que elle pouvait faire ça, là, endoyer les enfants. Elle a endoyé le fils à Alexandre Lozier, par exemple, qui a juste vécu 9 heures après la naissance. Là. Ça, c'est du monde, je pense, aux settlements dans ce coin-là. Puis dans l'article, ben, j'ai mis une carte. J'ai essayé de trouver toutes les... J'ai pas pu trouver les 91 familles, mais j'ai trouvé quand même, je pense, une vingtaine ou une trentaine de où est-ce qu'ils habitaient. Là. Fait, le territoire est vraiment... qu'est-ce qu'on peut faire comme à pied ou à cheval en urgence vite fait pour un accouchement? Là. Fait que le territoire n'était jamais super énorme. T'sais, elle n'allait pas accoucher là-bas à la Mecque. Là. C'était, elle vivait à Lozé Settlement. Ouais, alors le monde...
C'est quand même étendu. Là.
Tracadie jusqu'à Bois-Hébert, disons. Elle n'allait jamais à Saint-Isidore même. Elle se rendait jusqu'à là. Elle se rendait jusqu'au chemin des Dignards, pour le monde de Tracadie qui savait ce que c'est. Il y avait des Dignards qu'elle accouchait. Il y avait des Duguay qui vivaient sur ce chemin-là, puis d'autres Maigras. Puis il y avait comme, après ça, on a eu ce qui est comme maison suprême, puis le parc industriel, il n'y avait comme pas de maison dans ce coin-là. Fait que, ben, elle traversait ça, puis elle allait accoucher comme à peu près jusqu'à les Dignards. Puis évidemment, toute Paul-André, toute Lowe Settlement, là, c'était ça son, un peu son territoire là, qu'elle accouchait. La plus grosse année, c'est 1915, elle va accoucher 25 fois.
20?
Elle va aider 25. 25 familles là, de son petit patelin. Puis en 1916, elle en fait juste 8. Ça, c'est l'année qu'elle en fait le moins. Mais elle en fait toujours dans la dizaine là, à peu près là, d'accouchements. Fait que moi, dans ma période de 15 ans, elle en a fait 239. Là, il faudrait que je comparais les autres sages-femmes pour savoir si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. Parce que les sages-femmes, sur le même territoire, il y en avait 10 qui faisaient à peu près le même territoire qu'elle. Si on va comme un petit peu plus loin à Saint-Isidore, puis si on va un petit peu plus loin à Tracadie puis à Gauvreau, là, comme le, disons, le plus grand territoire de ce territoire-là, ils étaient une dizaine de femmes, de sages-femmes qui accouchaient. Puis il y avait aussi comme 5-6 médecins qui étaient quand même présents, qui pouvaient déborder un peu le territoire, comme le docteur Desroches, qui était à Chipagan, pouvait se rendre, lui, quasiment assez loin, là, quasiment Lozé Settlement, Six Road. Fait que des fois, on voit ces noms-là. Le docteur Langer, sa Tracadie, pouvait se déplacer dans ce coin-là, que si jamais c'était quelque chose de plus urgent, lui pouvait faire les accouchements avec. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était quand même disponible. Là. Mm-hmm. Puis elle allait souvent comme les mêmes familles, comme des fois, elle pouvait aller 5-6 fois avec la même femme, accoucher tous les enfants dans le fond de la famille.
Là. On ne veut pas manquer de temps, Philippe, passez à votre autre sujet.
Là,
parce que...
on s'en va avec l'autre. L'autre, c'est Wilfred et Virginie Mallet. Enfin, c'est un couple, ça, de Oshipagan, que moi, j'ai rencontré deux de leurs filles. Puis pour faire l'article, il y a quelqu'un d'autre de la famille qui nous a prêté des photos puis qui a comme complété la généalogie de tous les enfants. Parce que les autres ont eu 15 enfants dans la famille qui ont hérité à Oshipagan. Puis c'était un couple de Mallet. Puis lui, Will Mallet, était fermier, puis il pêchait un peu. Puis c'est ce que j'ai fait, moi, c'est les témoignages des deux madames. C'était dans le temps que je faisais des entrevues sur la vie quotidienne. Fait qu'il y a beaucoup de choses de la vie quotidienne, vivre sur la ferme, le temps de Noël, le temps des... Quand il y avait des veillées mortuaires, là, des wakes, on appelait ça. Il y a tout ce genre de petites informations-là qui est là-dedans. Lui, il va hériter de la maison. Puis une des madames, là, Eugénie, qui était l'aînée, que moi j'ai interviewée quelques années passées, elle me racontait, elle, qu'elle vivait avec ses grands-parents, parce que lui va hériter de la maison de ses parents. Puis elle vivait avec ses arrière-grands-parents aussi. Il y avait comme 4 générations, à un moment donné, qui s'est connu dans cette maison-là, qui vivait dans la même maison. Puis eux autres vont avoir 15 enfants, je pense. Fait qu'il y avait comme tout le temps énormément de monde dans cette maison-là. Il y a beaucoup de monde. Puis Eugénie me disait là, qu'elle a dû quitter l'école assez rapidement pour aider à la maison, aider avec les petits frères
c'était
et sœurs.
C'était le cas souvent dans ce temps-là.
Oui, c'était...
Et dans la revue, Philippe, vous parlez de la maison, on retrouve des photos aussi de la maison de Wilfred Mallet dans les années 90 et une de 2024 alors qu'on a fait des rénovations.
Oui, cette maison-là existe encore à Oshipagan, vraiment une belle maison.
Ouais.
Puis la grange, les gens d'Oshipagan, à chaque fois que j'allais voir les gens, Je lui ai demandé, avais-tu une école par ici? Puis là, il me dit tout ça. Oui, l'école, c'est la grange chez Will Malek. Fait que la grange qui est là, c'est l'ancienne école qui existe toujours. Parce que lui, il a acheté ça un coup. Qu'ils ont, je sais pas s'ils ont construit une nouvelle où ils ont fermé puis ils ont été envoyés les gens à Chipagan. Parce qu'après un bout, là, on va envoyer les gens à Chipagan. Mais c'est ça, ils vont transformer l'école en grange. Mm. Puis lui, des petites anecdotes comme ça là, que j'ai pogné, là, comme lui pêchait les perlans, par exemple. Comme là, les perlans, moi, la rivière est gelée, là, j'irai pas dessus, là.
Ouais.
Mais ça commence à. Les gens, je suis sûr, ils pensent déjà à ça. Les perlans, lui, allaient pêcher à Pointe Brûlée. Il vendait le surplus à Jean Robichaud, qui était le père de Édouard Robichaud, que la semaine passée, là, Clarence de Breton, on a parlé dans son rendez-vous d'histoire à Caraquette. Là. Okay. Bon, là, je pense qu'on a même parlé, nous autres, la semaine passée aussi, dans la mm-hmm. chronique. Ben, Jean Robichaud, lui, il faisait toutes sortes de choses, mais c'est ça, il pouvait acheter, il y avait comme un commerce de poissons. Je pense qu'Édouard Robichaud a travaillé là-dedans aussi. Puis, l'été, il pouvait pêcher des coques, eux autres. Là. Puis, il vendait ça aussi, puis il vendait ça 25 cents, le siot de coque, qui n'est pas beaucoup.
Mais non.
Aujourd'hui, ça ne coûte pas 25 cents. Là. Un siot, là, fait, c'est pas juste
oui.
C'est une grosse quantité. Là.
Dernier
là,
sujet. Aller,
le dernier, je ne sais pas combien de temps que j'ai. Là.
Vous avez deux minutes.
Et l'autre, c'est Prudent Légère, qui était tout un personnage dans le coin de Paquetteville. Prudent, c'était comme un ermite un peu à la fin. Quelqu'un qui était en marge de la société, puis... C'était quelqu'un qui était intéressant à faire la biographie. Là. Fait que lui est né à Paquetteville. Son père, c'est un des pionniers avec Dosité Légère. C'est ces familles de Légère-là qui se sont installées à Paquetteville. Lui, il va aller à 20 ans vivre aux États-Unis. Il va avoir des enfants aux États-Unis, au New Hampshire. Il va être agent d'assurance. Puis aux États-Unis, c'est lui qui va identifier la fille qui avait été kidnappée ou qui avait été enlevée par des gypsies ou qui avait disparu à Paquetteville. C'est une histoire que Bernard Thériault a fait plusieurs conférences dessus. Puis Prudent va reconnaître cette fille-là qui était comme la fille de son cousin ou quelque chose comme ça. Puis c'est lui qui va l'amener à Paquetteville pour rencontrer sa famille. Parce qu'elle était très jeune quand elle a disparu là, de Paquetteville. Fait, ça, c'est lui qui était mêlé dans cette histoire-là, qui avait reconnu la fille. Fait, il va revenir à Paquetteville. Mais à un moment donné, lui, sa femme va le quitter. Fait qu'ils vont se séparer dans les années 20 ou 30, là, ce qui est comme exceptionnel pour l'époque. Puis il va venir s'établir à Paquetteville. Puis il va vivre comme un peu à l'écart de la société. Là. Fait que là, une première fois, il va se faire un camp proche de ce qui est le lac à Prudent, qui est le lac que lui va laisser son nom. Fait qu'il va vivre là un bout de temps. Après ça, il va vivre à Rang-Saint-Georges dans les années 30. Il va obtenir un titre de terre là, dans les années 30, en mm-hmm. bonne et due forme, un titre de terre. Il va faire un camp là. Après ça, il va vendre ça à quelqu'un. Puis là, il va retourner au lac où il vivait, au lac à Prudent. Puis c'est là qu'il va se chicaner avec le prêtre. Parce que là, le prêtre, c'est tout un phénomène. C'est le prêtre Stanislas Robichaud qui n'endure pas grand-chose. Puis Prudent, lui, va se mettre à faire sa propre boisson dans son petit camp. Le lac est juste sur les terrains, à côté de l'église. Puis là, les jeunes, ben, ils vont le voir. Puis ils fument de la pipe. Puis là, ils... prennent des cigarettes. Puis là,
le curé n'est pas content.
Fait que là, le curé n'est pas content, ce gars-là, qui est divorcé en plus et que ça va pas bien. Fait que là, c'est à l'ombre du clocher de l'église. Fait pour s'en débarrasser, le père Stanislas Robichaud va tout couper la forêt tout le tour du lac, puis tout le tour du camp. Fait que là, il n'y aura plus de place à se cacher. Fait que là, il n'y aura pas le choix de s'en aller. Il va s'en aller dans le chemin de Val-Doucette. Il va construire un tout petit camp, là, vraiment tout petit. On a une photo dans l'article. Puis
oui.
Il va faire des barrages, il va faire des lacs artificiels. Puis il va devenir un personnage vraiment de Paquetteville. Là. Lui, à un moment donné, on m'a raconté que ses paupières étaient trop grosses ou ça tombait par-dessus ses yeux. Mais des fois, il se collait ses paupières sur ses sourcils avec de la tape. Là,
pour voir.
Pour voir. Ou des fois, il mettait des petits morceaux de bois pour traîner ses paupières. Des histoires comme ça. Puis,
incroyable, hein?
Ouais, puis il va être lettré, lui. C'est quelqu'un qui, tu sais, il savait lire puis écrire. Il avait été aux États-Unis, puis il était comme trop smart en étant un marginal. Fait qu'il était abonné à National Geographic, puis des fois, il parlait aux jeunes, puis les jeunes de ce coin-là, il expliquait des affaires sur les dinosaures. Puis là, ces jeunes-là allaient voir leurs parents, puis ils disaient, « Hey, Prudent m'a raconté telle affaire. » Puis là, ben, écoutez pas Prudent. Prudent, c'est un fou, il dit n'importe quoi. Mais tu sais...
Mais dans le fond,
Prudent,
non!
Prudent, il était pas fou, Prudent.
Il voyait ça dans le National Geographic, mais le monde, dans le temps, il savait pas trop quoi c'était. Fait que c'est ça, lui, à la fin de sa vie, ben, il va devenir âgé. Puis il va vivre comme chez les gens comme ça, ici et là. Puis il va aller d'une maison à l'autre. Puis il va décéder finalement en 1959. à Paquetteville. Ça, c'est un peu les trois mm-hmm. biographies qu'on peut lire dans la revue.
Dans le dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick, la Société historique Nicolas-Denis. Fort intéressant,
merci, Philippe.
Puis ça peut être un très beau cadeau à offrir pour le temps des fêtes, hein, cette revue.
Oui, c'est vrai, oui. Vous pouvez vous abonner pour 30 $ ou vous pouvez acheter chaque revue va être 15 $.
Voilà.
Ils sont en vente dans toutes les librairies.
Voilà.
Merci, Philippe.
Merci, Philippe.
De rien.
Envie de prendre une marche? Mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs au Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours, de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!